qualité et dans l'héritage.
La Tunisie a toujours, la Tunisie a toujours été un pays d'avant-garde et de réforme.
Oui.
Les premières dates remontent au XVIIIe siècle.
Tout à fait.
On commence d'abord par l'interdiction de l'esclavage.
Tout à fait.
C'est en 1846.
1846, tout à fait.
Bien avant beaucoup de pays européens.
Oui.
Puisque des pays comme la France ont arrivé à cette solution en 1848.
48, après nous, deux ans après.
Et puis, il y a eu en 1857 le pacte fondamental, qui est au fond un pacte des libertés en général. Et puis, il y a eu la constitution en 1861, qui est quand même une constitution d'avant-garde.
Tout à fait.
Tout cela avant le protectorat. Ce qui fait que la Tunisie était depuis très ouverte sur le monde et surtout sur l'avenir. Bien entendu, dans les années 30, il y a eu Tahar el-Haddad qui a fait qui n'a pas beaucoup survécu lui-même, parce qu'il est mort très jeune.
35, il est mort à l'âge de 36 ans.
Bon, donc son livre sur la femme, c'est en 30, je crois.
C'est ça, en 1930, tout à fait, juste.
Et puis, il y a eu Habib Bourguiba et 1956. Le statut personnel.
Le code du statut personnel.
Le code du statut personnel, qui, fort heureusement, n'a pas été une décision figée. C'était d'abord une révolution dans un monde musulman, un monde arabe musulman.
Oui.
Et ce code de statut personnel a évolué dans le temps.
Oui.
Et la femme tunisienne a évolué dans le temps. D'abord, si vous revenez à l'année de l'indépendance,
1956.
Le problème de la Tunisie, c'était combattre l'analphabétisme, qui était très important chez la femme. À ce moment-là, on n'avait qu'une seule doctoresse, Béchir. Elle a vécu assez longtemps.
Oui.
Elle est morte il n'y a pas très longtemps.
Récemment.
Mais si vous regardez la situation actuelle, la femme n'est pas la femme de 1956.
Elle a changé.
Ce que j'ai vu, les dernières statistiques, d'ailleurs j'en ai parlé au Forum des droits de l'homme, 69% des titulaires de doctorat et de diplôme supérieur sont des femmes.
Sont des femmes, c'est très bien ça.
69%.
Ce qui est important.
Et puis, 60% des médecins sont des femmes.
Sont des femmes maintenant.
Je ne veux pas parler des dentistes et des. Ils sont 75%. Des pharmaciennes.
Un progrès colossal.
Donc, le problème actuel, ce n'est pas la femme arriérée
analphabète,
boostée. C'est vrai que sur le plan politique, nous avons fait beaucoup d'efforts pour que la femme, dans les élections législatives et même municipales, puisque nous avons choisi un système de liste,
oui.
50% sont des femmes, 50% sont des hommes.
L'égalité
et maintenant, si vous jetez un coup d'œil sur l'Assemblée du peuple chez nous, vous trouverez dans la salle autant de femmes que d'hommes.
Oui, tout à fait.
Donc, la femme, donc, actuellement, mérite qu'on tienne compte de cette évolution-là et que la femme n'est plus l'égale de l'homme, elle est même plus. Donc, il était normal que sur le plan légal, nous pouvons penser à ce que la femme doit avoir les mêmes droits que l'homme. Je sais que nous avons dans le code de statut personnel lui-même a retenu la règle coranique un tiers, deux tiers, mais actuellement, ce n'est pas dans son aspect religieux que la chose doit être retenue, mais dans son aspect légal et constitutionnel. Parce qu'actuellement, nous avons une constitution, celle de 2014, 27 janvier 2014, qui justement est une constitution pour un état civil, elle n'a pas de, de référence religieuse, et deuxièmement, c'est une constitution où l'article 21, je pense, parce que je me rappelle, commande à l'État de réaliser l'égalité entre l'homme et la femme dans tous les domaines, y compris, bien entendu, dans ce domaine-là. Et nous avons repris ce domaine religieux pour dire la religion, c'est une chose, mais la Constitution, c'est une autre. Et d'ailleurs, l'article 2 de la Constitution, celui qui dit que l'État est la Constitution pour un État civil, il donne des références, trois références, c'est-à-dire la citoyenneté,
en premier, oui,
la citoyenneté, la chose du peuple, la vie du peuple, et troisièmement, la primauté du droit, c'est-à-dire la Constitution. On n'a pas dit la primauté de la religion. Tous ces éléments-là font qu'il est temps maintenant, et c'est le moment d'initier un projet où la femme doit avoir les mêmes droits que l'homme dans l'héritage.
Donc, vous considérez que l'institution de la COLIB, c'est la Commission des libertés individuelles, vient à point nommé pour passer ce projet
avons,
de loi.
Nous avons constitué cette commission. Oui. En réalité, nous savions que nous allions vers l'égalité des droits, mais c'est pour trouver les formes les plus appropriées pour que cette égalité des droits, une fois consacrée par la loi, ne choque pas le sentiment religieux de la majorité des Tunisiens, parce que la majorité des Tunisiens sont des musulmans. Voilà.
Considérez-vous actuellement que les conditions sont remplies pour que ce projet de loi progressiste prenant l'égalité dans l'héritage puisse donc passer? Quelles sont les chances qu'on
en réalité, passer? En réalité, le seul frein actuellement, c'est l'attitude de la NADA qui est contre cette. Mais avec une lecture incorrecte du texte coranique. Oui. Parce que nous, nous ne mettons pas en cause le texte coranique, mais nous disons, c'est un texte qui a été en vigueur il y a 14 siècles, oui, et que maintenant les choses ont évolué, que la situation de la femme n'est plus la même. Mm-hmm. En tout cas, si nous prenons l'intention de Dieu, les intentions, l'islam est une religion d'ouverture,
tout à fait,
et une religion de tolérance. Et puis, sur le plan religieux, si vous voyez, en tout cas je parle de la Tunisie, il y a une cohabitation entre toutes les religions. Il y a la cathédrale, il y a la grande mosquée, il y a la synagogue, il y a tout est là. Et d'ailleurs, le verset du Coran qui reflète cela, قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Donc nous acceptons même ça. Et puis, si vous regardez le texte constitutionnel, oui, il y a un article 6. Oui. Voilà. Cet article 6 dit qu'il y a la liberté de conscience. Alors s'il y a la liberté de conscience, à ce moment-là, l'apostasie n'existe plus.
Elle n'existe plus. Voilà. Est-ce que vous vous considérez comme l'héritier de Tahar Haddad?
C'est-à-dire que je reconnais que Tahar Haddad a été un précurseur. Oui. Et qu'il a tellement souffert en son temps, surtout par l'attitude des chefs de la grande mosquée, etc. Que la Shoah Abdel Al-Hidad Al-Amra Al-Haddad,
Mohamed Salah Al-Murad,
Al-Murad, etc. Que le Cheikh Islam.
Boulmonsk. بن مراد بن مراد اللي مدير مجله رياليتي
سابقا. نعم 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 Les choses ont changé depuis.
Oui.
Et puis, Tal Haddad a été tellement décrié, tellement combattu, il a tellement souffert, que tout de même, nous sommes très fiers de dire qu'il est le précurseur et que nous nous référons à lui.
D'accord.
Et puis, Habib Bourguiba a pris la suite.
Est-ce qu'actuellement, le rapport des forces dans le Parlement tunisien, l'ARP, permet d'espérer qu'il y ait la majorité pour faire passer ce projet de loi? Vous avez dit que la NAD est contre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres partis, d'autres formations qui peuvent faire balancer le vote?
Vous savez, de mon point de vue, il faut faire ce qu'il faut faire. Fais ce que doit, advient que pourra. Moi, je fais ce que j'ai pensé être dans le sens de l'histoire, dans le sens de l'avenir. Et puis, si je regarde l'attitude de certaines formations politiques et même sociales au moment de l'apparition du code de statut personnel, où tout le monde était contre, pendant longtemps, actuellement, même Nada, quand il parle, il dit « Rahm l'Habib Bourguiba ». C'est fini, ils ont dépassé les choses, ils ont accepté. Alors moi, je dis que l'essentiel, c'est de s'inscrire dans un processus évolutif.
Évolutif. C'est une idée aussi chère à Haddad, qui dit que l'islam est venu pour libérer, que c'était des conditions historiques dans lesquelles Wahd al-Banat et ainsi de suite, et il est venu pour améliorer cela, et qu'aujourd'hui, il est aussi apte à accepter l'idée de l'égalité dans l'héritage.
Exactement. Si nous nous référons effectivement à ce que faisait Tar Haddad, c'est ça. Et si nous nous venons à l'histoire pour dire que on enterrait les filles vivantes, même celles des jurisconsultes les plus importants.
Oui.
C'est Omar, je pense. Maintenant, les choses évoluent.
Ont évolué.
Donc, il faut faire confiance à l'histoire. L'histoire évolue.
Oui.
Certes, l'histoire a ses vicissitudes, mais elle a aussi ses possibilités de libération de l'esprit.
Est-ce que vous mettez ce projet de loi dans une perspective qui est-ce qu'il y a une situation postérieure qui viendra après cela?
Pour le moment, moi j'espère que on a suffisamment de lucidité parmi les députés tunisiens, y compris parmi ceux de Nava, pour savoir qu'il faut le faire maintenant. Mais de toute façon, si on ne le fait pas maintenant, il va nous être imposé dans quelques temps. Comme vous le savez, dans le texte que nous avons présenté, nous avons mis beaucoup de souplesse, puisque la règle, c'est cet héritage-là, égalité, mais si le decujus, c'est-à-dire
le défunt,
veut régler sa succession sur la base de la loi coranique, il peut le faire, mais par un acte
notarié. Voilà, c'est toutes les questions que j'ai à vous poser. Merci, j'espère que nous n'aurons pas abusé de votre temps. Et nous sommes satisfaits de cette entrevue.
Je vais faire quelques photos. Voilà. Ok. Ok, voilà. C'est bon.
Les photos. Voilà.
Très bien. Mabrouk.
Aïcha, merci.
Merci, ma fille.
Merci, Aïcha. À très bientôt.
Merci.